Choix 98.1. Choix. Radio X.
Hey, on parle avec notre collaborateur d'M2 Gaming, Marc Desgagnés, qui est là avec nous en studio. Salut Marc!
Salut la gang, comment ça va?
Ben oui, ton chum était de passage hier avec Rich.
Ben oui, il a bien fait ça le grand garçon.
M2 Gaming commence à prendre de la place dans les médias, toi.
Ouais, mais c'est grâce à vous autres, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, écoute, vous le méritez.
On a mérité, mais on n'a pas menacé personne à point du fusil à date.
Non.
Ça va bien.
Non.
Ça fait combien de temps vous existez, là?
7 ans.
7 ans.
Ouais, 7 ans de dur travail, puis on va dire travail bénévole. Il est complètement passionné parce qu'on ne retire aucun sou de faire ça.
Puis vous êtes un média de jeux vidéo.
Ouais, ben on dit média. Tu sais, on a parti à... C'était une passion au début avec un site web et toutes ces choses-là. Puis tranquillement, le traitement qu'on a fait des jeux, puis le traitement des nouvelles, des trucs comme ça, ben on s'est plus transposé un peu sur la forme médiatique de la chose. Fait que c'est pour ça que maintenant, oui, par beaucoup d'éditeurs, on est plus considéré comme un média que simple blogueur.
Vous êtes deux là-dedans, puis vous jouez à tous les jeux possibles.
Ben, on est deux. En fait, on est 4, 5, 6. Des fois, ça varie parce que, comme exemple, Martin, qui est le cofondateur avec moi, Martin Grondin. Martin, il a des entreprises. C'est un entrepreneur. Fait que lui, ça arrive souvent que des fois, il va être beaucoup plus présent. Il va être dans M2 Gaming. D'autres fois, il va être plus retiré comme en ce moment parce qu'il y a une de ses business qui lève puis qui fonctionne à fond. Fait que là, c'est sûr que des fois, lui, il est moins présent. Mais c'est les autres, on prend la relève puis on s'occupe du bébé.
T'en profites pour nous présenter quoi aujourd'hui?
Ben, j'ai décidé, vu que justement, à la fin de l'année, on va avoir des nouvelles consoles. Qui dit nouvelle console dit aussi, ça va-tu être un flop, ça va-tu être un succès monumental ou pas. Mais ça me fait penser, je dis, pourquoi pas faire un petit backtracking dans l'histoire un peu du jeu vidéo, puis dire, c'est quoi les genres de pires flops commerciaux qu'on a eu dans les consoles de jeux vidéo?
Ah, ça, j'aime ça.
Ouais. Puis là, attention, je dis pires flops, là. De un, j'ai décidé de prendre des consoles que les gens connaissaient ou ont déjà entendu le nom, parce que si je te parle de la Fairchild Channel F ou bien de la Magnavox Odyssey, probablement toi, ça te sonne aucune cloche, puis bien du monde non plus.
Magnavox Odyssey, Sam Girard de Trois-Rivières m'en avait parlé.
OK. La Pioneer Laser Active?
Ça me dit rien.
Bon, vois-tu, il y a plein de... Ben, des consoles, juste pour le fun comme ça, toi et Camille, là, combien de consoles vous pensez qu'il a existé environ depuis le début du jeu vidéo?
Tabarnouche. Je vais y aller avec une trentaine.
OK, toi?
Ouais, je dirais une centaine, certain.
Ouais, si tu inclus, mettons, tout ce qui est portable, il y en a au-dessus de 150.
Mon Dieu, je suis loin du compte.
Fait que je peux te dire que là-dedans, ceux que vous retenez, mettons, dans les 30-40 dernières années, là, que tu te rappelles, tu dis, ah oui, la Nintendo, l'Atari, ben, tu sais, il n'y en a pas beaucoup, comme toi, tu vas dire, il y en a une trentaine. Mm-hmm. Fait que je te dirais que la majorité des gens va peut-être dire entre 40-50, mais non, il y en a quasiment trois fois plus que ça qui a été commercialisé. Puis là, ben, j'ai décidé de prendre ça, puis j'ai décidé aussi de prendre, c'est pas tout le temps un succès, tu sais, un flop au niveau commercial de dire, ben, en termes de chiffres, mais plutôt des fois en termes de dire, ben, y a une console que probablement qu'elle aurait dû avoir un meilleur succès que ça, mais elle a été éclipsée par un autre carrément parce qu'il y avait un autre qui est arrivé et qui a pilé carrément d'en face. Donc, on va y aller avec ça. La première, je pense que tout le monde va s'entendre, puis ça, y a le flop aussi, question le temps que ça a duré sur le marché. La Nintendo Virtual Boy.
Oui.
Y en a-tu qui ont connu ça, cette espèce de, j'ose dire, guenille? non, mais c'est parce que quand t'essayes, Nintendo a essayé quelque chose, puis Nintendo, on va leur donner ça. Ils aiment ça, faire des innovations, arriver avec des nouveaux concepts, arriver avec des choses comme ça, nouvelles sur le marché, puis okay, là-dessus, je relève le chapeau.
On parle quasiment d'un casque de réalité virtuelle, c'est ça?
Ben, c'était comme un casque, mais c'était pas un casque. On va dire une visière, parce que c'était monté sur un genre de trépied, puis il fallait que tu t'approches le visage pour coller un écran, qui était un peu comme des lunettes, si tu veux, là.
Ben oui, toi!
C'est ça. Puis ça, ben, pas rien que ça. Ces jeux-là étaient uniquement monochromes de couleurs dans des couleurs rouges. Tu sais, c'était rouge, orange, un peu plus rouge, un peu moins rouge, mais c'était rien que rouge. Oui, l'effet 3D fonctionnait parce que c'était le premier concept des jeux genre en 3D qui donnait vraiment un effet de 3 dimensions. Mmh. Mais on s'entend que ça n'a pas levé. Le fait de juste monochrome, c'était ordinaire. Ouais. Pour te donner une idée, là, c'est arrivé en juillet 95 sur le marché. Puis en décembre 95, c'était on tire la plug, c'est fini.
Puis quand on voit ce type de concept-là, il faut toujours savoir qu'il y a des gens qui se sont réunis autour d'une table. Là. Ils étaient 12, 15, 20. Puis ils se sont dit, tiens, voilà une bonne idée.
Ouais.
Ils ont choisi de commercialiser ça. Alors que même visuellement, tu te dis, tabarouette, ça doit être fatigant à long terme, là, jouer à tout ça. Quand tu joues pendant 2-3 heures. Là.
On dirait que tu vas chez l'optométriste là, à chaque fois que tu joues à un jeu. Là.
Ouais. Puis, tu vois, il n'y a pas eu ben de support au niveau des éditeurs parce qu'ils ont fait 22 jeux disponibles pour la console. 22. 22 jeux, ça, c'est pas grand-chose, là, 22. Fait que, ils ont quand même réussi à en vendre à peu près 800 000, mais ça a pas fait ben succès sur le marché.
En 95, ils vendaient ça 179$, c'était pas cher quand même.
Ben non, mais si tu le mets en argent constant d'aujourd'hui, là, c'est voir que c'est quand même plus cher.
250-300?
À peu près.
À peu près.
Aïe, aïe.
Ouais. Fait que, tu sais, 300$ aujourd'hui, puis tu paierais-tu pour ça?
Non.
Ben, c'est ça.
L'Atari Jaguar.
Oui, Atari Jaguar. Ben, Atari, comme vous le savez, c'est pas mal les précurseurs de ceux qui ont commercialisé les consoles de salon, si tu veux, avec l'Atari 2600. À un moment donné, on les perd de vue après l'Atari 7200. Ils se perdent un peu parce qu'il y a eu le crash au 183 du jeu vidéo.
Ouais. Atari, moi, je me souviens de Q-Bert. J'ai jamais compris comment jouer à ça.
Ah ben c'est ça. Ça fait partie des jeux classiques, des fois, que certains vont aimer et d'autres non. Fait qu'à un moment donné, en 93, Atari décide, dit, moi, là, je vais aller me battre contre la PlayStation 1, Nintendo 64 et ces consoles-là. Je vais lancer l'Atari Jaguar de 1 à 249$ US en 93. Ça n'a pas fait fureur parce qu'en plus de ça, Atari se sont mal pris dans leurs affaires. Ils ont voulu essayer de faire une console 64 bits, mais qui n'était pas une 64 bits. C'était comme une 32 bits, mais elle avec un 16 bits au niveau de ses processeurs, qui, dans le fond, donnait pas la puissance égale, si tu veux, aux autres consoles. Fait qu'ils se sont tirés dans le pied avec ça.
Mais le design de la console...
Il était beau.
Encore aujourd'hui, tu commercialises ça, puis ça a bien du bon sens.
Moi, je trouve que ça... Oui, moi, je l'aimais. Au niveau du look, je l'aimais.
Pour ce qui est de la manette, c'est autre chose.
Ben, la manette... Oui, mais la manette était innovante pareil, parce que la manette, t'avais une espèce de gros pad avec... Tu sais, tu pouvais vraiment rentrer du numérique, là, alphanumérique dessus. Fait que c'était quand même assez audacieux dans ce temps-là, parce qu'il n'y en avait pas, là. Il arrivait avec un nouveau concept, fait que c'était intelligent, mais ça a pas levé.
D'ailleurs, manette à vie, je pense que c'est la manette du Xbox. C'est un croissant.
Hey, là, tu vas partir un débat de fanboy encore
avec
une fois.
Avec PlayStation, hein?
Ouais, c'est pas mal.
Non, mais Xbox, là, je sais pas, la manette est grosse, comme un gros croissant, puis t'as comme l'impression d'avoir enfin quelque chose dans les mains. Ça fait des années que t'en rêvais. Quand t'es un gars, je parle. Là. Ça fait des années que t'en rêvais, puis t'es content. Là. Ça va
bien. Les fanboys de Xbox vont te dire probablement que c'est vrai, puisque la manette de la PlayStation 5, là, la DualSense, qui va s'appeler, là, tout le monde dit qu'elle ressemble à une manette d'Xbox.
Ben,
fait que probablement que tu peux peut-être avoir raison. On va faire plaisir aux fans d'Xbox aujourd'hui. Après ça, en troisième position. Ça, là, ça fait partie des consoles, des fois, qu'elle aurait pu avoir un certain succès, mais que le prix a carrément fait en sorte que ça soit impossible. Regarde bien ça. La Philips CDI, OK? CDI. C'est un concept, une belle console quand même, mais un concept qui était en 91, quand c'est arrivé, il essayait de vendre ça 699$ US.
Yeah,
là,
boy,
tu parles de quasiment plus que 1000$ aujourd'hui pour une console, qui essayait de faire en sorte on allait compétitionner la TurboGrafx-16, la Genesis, la Super Nintendo, la Neo Geo, ces consoles-là. Oublie ça, là, encore une fois, c'était une console qui, pourtant, avait quand même des choses intéressantes. C'est une console fabriquée par Philips, puis qui avait été développée même en collaboration avec Sony au départ. Pourtant, tu dis, Sony a fait la PlayStation 1 après, ça a été super, c'est un super grand succès. Mais non, Philips s'est tiré dans le pied avec cette console-là qui avait des... Il proposait surtout des films interactifs puis des choses comme ça qui, ça, encore une fois, ça n'a pas levé. On dirait qu'ils étaient trop en avant peut-être sur leur temps, un peu comme l'autre qu'on va voir après.
Mais la manette, là, c'était celle-là avec la douche-téléphone.
Ouais,
ça ressemblait à une douche-téléphone.
Ouais,
mais comment ils ont pensé que quelqu'un pourrait jouer avec ses deux mains sur une douche-téléphone?
Ben, souvent, ils vont faire ça parce que oui, ça va aller avec les applications que tu peux faire dans les jeux ou dans les logiciels, qui vont dire, ben oui, ça, c'est mieux parce que, mettons, tu as une roulette sur des sur certains... Je vois Camille qui regarde ce que ça a de l'air.
En même temps, on a reproduit la Wii...
Camille et douche-téléphone, c'était clair que ça allait l'intéresser.
Ben c'est ça, c'est un match. Hein? Mais la Wii a été une manette semblable quelques années plus tard et t'enlèves le fil puis il n'y a plus de problème. Non, les gens l'ont adopté.
Mais ça a fonctionné. Ce principe-là a fonctionné.
C'est ça. Fait, pourquoi pas, Marceau? C'est ça.
Mais ça, je te dis, si la manette va bien avec les applications, puis les jeux, puis que tu sais, c'est quand même assez intuitif, ben il n'y a pas de problème. Tu sais, le look de la manette importe peu. Il y en a eu des looks fuckés, là. Je veux dire, la manette de Nintendo 64, là, le monde la trouvait bizarroïde. Elle ressemblait à un M de McDonald's. Là.
C'est vrai. Ben oui.
Fait qu'avec une espèce de grosse pointe dans le centre. Là.
En fait, c'est comme un 3 viré sur le côté.
Oui, c'est ça. Ou un W à l'envers, voilà, comme tu veux.
Un M, en fait, là,
c'est
les amis.
C'est ça. J'ai dit McDonald's, j'étais pas loin.
Ça,
juste la couleur qui n'était pas bonne. Sinon, on continue l'autre après, la Apple Bandai Pippin. Ça, mon gars, Apple a décidé de m'emmener de se lancer, puis c'était pas la première fois. Ils ont essayé de se lancer dans les consoles de jeux vidéo.
C'était pas dans le film de Steve Jobs, ça, je sais pas pourquoi.
Non, il n'en a pas parlé, celle-là. Hein?
C'était pas une fierté, à mon avis.
De la même génération, on essayait de compétitionner encore une fois la PlayStation 1, Nintendo 64, la Saturn 3DO, toutes ces consoles-là. 28 mars 96, on lance ça. Paf! En 97, fini. 42 000 unités vendues. On arrête ça là. Ça marche pas. Puis pourtant, Bandai, c'était une grosse société japonaise. Puis Apple, ben c'est Apple. Je pense que tout le monde n'a pas besoin d'introduction sur Apple.
Mais écoute, les couleurs, là, ils ont, tu sais, Nintendo a repris les couleurs, là.
Ben oh oui.
La console blanche avec les pitons verts, rouges,
puis jaunes. Est-ce que c'est Nintendo qui a repris les couleurs ou c'est Apple qui a essayé de s'accoter à Nintendo?
Ah, c'est une bonne question. Je dirais que ça, le design des couleurs, là, ça peut être discuté. Ça dépend encore une fois, comme on disait tantôt, il y a un paquet de gens qui s'assoient autour d'une table et qui décident du design, ça va ressembler à ça, à ça.
Mais en fait, qui est arrivé avant, la Super Nintendo ou Apple?
La Super Nintendo,
t'as vraiment. OK, j'ai ma réponse.
Oui, c'est ça. Puis vois-tu, il y a juste 23 jeux qui ont été faits pour ça pour te démontrer que ça n'a pas levé partout. Puis ça fonctionnait, bizarrement, ça fonctionnait avec un système dérivé du Mac OS, là, du Operating System de Mac, de l'environnement Macintosh.
Okay. Fait
que c'était spécial d'avoir une console de salon avec un environnement, tu sais, ordinateur, si tu veux. Là. Fait que, mais ça n'a pas levé encore une fois. Puis ils vendaient ça encore une fois, 600 $ US. En 96.
On peut bien payer des téléphones au-dessus de 1000 piastres.
Exactement.
C'est l'inflation.
Ouais.
Écoute, l'autre, là, j'ai tapé sur Google Panasonic 3DO, puis j'avais l'impression que c'était un lecteur VHS.
C'est pas mal tout le temps la remarque que les gens vont faire. Mais moi, je trouvais quand même que si tu mettais ça dans ton environnement salon, tu sais, audio-vidéo, ça détonnait pas. C'était quand même bien. Je trouvais que ça fitait.
Mais c'est un designer de décoration. Dans l'âme, là.
Ah, moi, à côté. Mais je trouvais que ça fitait. C'est pas une console qui était laide. Puis en plus de ça, ça fait partie, la Panasonic 3DO fait partie des consoles qui, encore une fois, a pas levé, surtout à cause que c'est arrivé peut-être un petit peu trop rapidement sur le marché.
Okay.
Puis encore une fois, un prix désastreux, 700 $ US en 94. Ça faisait mal. T'sais, personne ne voulait acheter ça. C'était absolument, tout simplement trop cher. Mais ça fait partie des consoles qui étaient une bonne console. Il y avait des super bons jeux. Gex, qui était le jeu qui a été plus vendu là-dessus, à 1 million de copies passées. C'était des super bons jeux qu'on avait là-dessus. Nous autres, je pense que c'est Martin qui en avait déjà eu une. Puis on trippait, là, quand on avait essayé ça, on trippait solide là, sur la technologie qui arrivait. Mais il faut dire que dans ces années-là, Yann, comme on parlait dans des chroniques précédentes, tout ce qui est PlayStation 1, Nintendo 64, c'était tout les premiers balbutiements du 3D. Hein?
Oui.
Quand tu regardes ça aujourd'hui, avec nos yeux d'aujourd'hui, là, c'est laid en pas pour rire. Mais dans ce temps-là, on trippait. Là.
C'est ça.
C'était nouveau, là, on capotait raide. Là. Fait que, non, encore une fois, ça n'a pas levé, surtout à cause du prix, je te dis.
Okay. Le prochain, c'est un de ceux que moi j'ai entendu le plus parler. Je savais pas que c'était un flop. Là. Toi, tu me l'apprends ce matin.
Des auditeurs en parlent.
Il y a quand même eu énormément de ventes là, pour ça, cette console-là.
Ben, tantôt, je te disais flop, pas nécessairement flop commercial, mais flop justement parce que c'est arrivé sur le marché, ça aurait dû être une console qui aurait dû avoir encore un plus gros succès que ça, puis aller se battre bien comme faut avec les autres. Mais malheureusement, la Sega Dreamcast, elle s'est fait éclipser par la PlayStation 2, la GameCube, la Xbox, tu sais. Il n'y a rien. Là,
c'est le timing qui était mauvais?
Ben, des fois, c'est le timing ou des fois, ça peut être... Sega n'a jamais été, je te dirais, après la Genesis, là, ont eu beaucoup de misère avec le marketing, surtout à tout ce qui arrivait, mettons, sur le territoire nord-américain. Fait que, tu sais, c'est des sociétés japonaises. Puis quand on arrive pour amener ça sur le territoire nord-américain, ben, des fois, il faut changer la façon que tu fais ton marketing. Puis bien souvent, il y a beaucoup de compagnies comme ça, japonaises, qui vont se péter la gueule parce qu'ils ne connaissent pas assez bien la mentalité nord-américaine. Mmh. Puis ben là, ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas capables. Parce que oui, au Japon, la Dreamcast a eu quand même un super bon succès. Il y a eu des jeux là-dessus super, super bons. Dans des Resident Evil, Code Veronica, qui est arrivé, mm-hmm. Shenmue, Crazy Taxi, Jet Set Radio. C'est tous des jeux qui ont levé et qui ont eu beaucoup de succès ici. Mais malheureusement, encore une fois, comme je te dis, comparativement aux autres qui sont arrivés, comme la PlayStation 2, qui est japonais quand même, là, mais ça a levé. Ça a marché fort. Puis ça a marché aussi parce que la PlayStation 2 arrivait avec le format DVD. C'est eux autres qui ont commercialisé pas mal le format DVD.
Oui, OK.
Fait que là, ça faisait deux pierres de. Tu sais, une pierre de. Voyons, comment ça?
Une pierre de coups.
Une pierre de coups, c'est ça. Fait que là, t'arrivais avec une machine de jeux vidéo, mais en même temps, un lecteur DVD. Fait que tout le monde a été plus porté d'aller vers la PlayStation 2. Fait que c'est pour ça que des fois, tu te dis, ah, ben, l'autre a comme pas réussi.
OK. L'autre qui a eu un gros lancement, puis écoute, je travaillais ici en 2011, le lancement de cette console-là, c'était en 2012, puis les gens me demandaient de parler de cette console-là parce que semblerait que c'était incroyable. Puis moi, j'avais joué à cette console-là, puis je me disais, mais voyons donc, c'est ça.
Ouais. La Wii U.
Qui va triper là-dessus, là? Ouais. La Wii U?
Ben, la Wii U, évidemment, comme je te disais, Nintendo a toujours été fort dans l'innovation, puis la Wii U, c'est l'évolution logique, si tu veux, de toute la ouais. Wii. Mais tu sais, le problème de Nintendo avec la Wii, c'est surtout peut-être l'évolution. T'sais, ils ont sorti une Wii qui n'était pas HD. Après ça, ils ont sorti une Wii HD. Après ça, tu sais, quand tu sors trop de modèles d'une console, ben, à un moment donné, tu dilues ton public, puis t'écœures aussi ton monde à dire, t'aurais pas pu penser à ça au début, puis nous donner tout de suite une machine qui a de l'allure en partant. Ben, là, ils ont attendu trop, puis la PlayStation 4, l'Xbox One sont arrivés. Encore une fois, ça n'a pas réussi à remonter la pente pour aller chercher ces consoles-là qui avaient beaucoup plus de succès. Puis pourtant, ouais. Ils ont innové, ils sont arrivés avec un pad séparé, un peu comme la Switch, si tu veux, maintenant. T'sais.
Je te pose la question, ouais. À part le Game Boy, le Nintendo DS et la Switch,
ouais.
Quelle autre console ont réussi à faire un succès fou, mais en étant de format portable?
Ben, succès fou, je te dirais peut-être quoi? La PSP?
OK.
La PlayStation Portable, la première. Là. Tantôt, okay. Je vais te parler de la PlayStation Vita, là, qui est comme ouais. la forme évoluée de la PSP. Mais la PSP, je pense que oui, au niveau mondial, puis même au Japon, il y a eu un bon buzz. Longtemps, ça a quand même beaucoup fonctionné.
Okay.
Mais ça n'a jamais fonctionné au niveau, je te dirais, des appareils 3DS ou des appareils DS de Nintendo.
C'est plus Nintendo, c'est ça, ouais. qui a torché, ouais. entre guillemets, ouais, le,
ouais.
marché.
Oui, ben, tu sais, même dans le temps, avec les Game Boy et compagnie, ouais. Nintendo a toujours eu beaucoup de succès avec ses consoles portables. Fait que, tu sais... Arriver puis sortir une console qui allait combattre ça, c'était difficile parce, okay. que t'avais déjà une base établie aussi. Là. Fait que ceux qui avaient acheté des Game Boy, ben, ils mouvaient vos appareils DS. Ceux qui avaient des DS, ils s'en allaient vers la 3DS. T'sais, quand t'as une bonne base établie, c'est sûr que ça aide. Là.
OK.
Mmh. Après ça, ben...
Tu vois, il y a Jeff qui dit, moi, je suis un fabuleux propriétaire de la Philips. Est-ce que ça vaut encore quelque chose aujourd'hui? Elle ne fonctionne plus, puis j'ai joué avec 2 semaines.
Ça fonctionne plus, non.
Ouais, ça fonctionne plus d'habitude.
Ouais. Mais y a-tu des sites où tu peux aller sur Facebook, exemple, où tu peux échanger des vieux jeux et des vieilles,
oui.
consoles?
Ouais. Oui, il y en a beaucoup. Il faut chercher pour avoir les bons, là, parce qu'il y en a plusieurs. Je ne les ai pas par cœur, malheureusement. Mais oui, c'est facile. Tapez ça sur Google, puis vous allez trouver facilement des sites de revente ou des sites de collectionneurs.
Je te dis ça, je dis rien, Marc, mais Facebook Market, ça peut faire la job aussi.
Oui, mais là, c'est pas pareil. T'sais. Facebook Market, c'est pas mal at large. Tu veux te débarrasser de quelque chose, c'est quelque chose. T'sais, souvent, le monde ne sont pas tout le temps au courant de la vraie valeur d'un item de collection.
Ouais.
Fait que là, tu vas te ramasser que toi, tu vas dire, mettons, ta Philips CDI qui n'a pas été produite en beaucoup d'exemplaires puis qui n'existe peut-être pas beaucoup non plus qui fonctionne.
Ouais.
Ben là, si tu en as une qui est fonctionnelle, vendre ça sur Marketplace, tu vas peut-être avoir plus de chance si tu vas sur un site de collectionneur. T'sais.
Mais Jeff, qui a joué avec la Philips CDI, là... 700$ US, ça veut dire c'était quoi dans le temps, 97, un genre de 800$, 850$?
Dans le temps?
Ouais.
Ouais, ben oui. Oui.
C'est ça. Il a joué 2 semaines.
Ah oui. Mais... Hey, on parle des appareils de quasiment 1500$ aujourd'hui. Hein? pense à ça, là. Puis là, tout le monde qui a pas, puis veut arracher le chemise sur le corps à cause des prix de peut-être, ouais. la PlayStation 5, qui va être une fraction de ça, là. Fait que c'est pas vrai que les prix sont aussi rendus plus chers que ça, là. Enlevez-vous ça de la tête.
PlayStation, ouais, Vita.
Ouais, ben comme tantôt, je parlais à Camille, la PSP, ben la PlayStation Vita, moi, ça me fait mal dans mon cœur à moi parce que je l'aimais d'amour, cette petite console portable-là. J'ai eu les 3DS à Nintendo, mais quand arrivait une console portable qui ressemblait plus de quoi, qui avait une qualité au niveau de l'image, qui avait 2 écrans tactiles, ce qui était quand même particulier pour un écran, pas un écran, mais une console portable, parce que tu avais un écran tactile en avant puis un en arrière. Tu avais beaucoup d'affaires gyroscopiques dedans, plein de belles technologies qui, malheureusement, encore une fois, a été mal marketé ici, en Amérique du Nord, puis même au Japon, mais c'est parce que le problème qu'on a eu, c'est encore une fois, quand tu veux adapter des jeux japonais, tu sais, quand t'as beaucoup des jeux japonais, la mentalité japonaise, c'est une chose, puis là, ben, si t'es pris pour essayer de traduire ou d'apporter des jeux de mentalité japonaise sur le marché américain, ben, c'est sûr que tu vas avoir un ratio plus petit, ton bassin de population qui va triper, okay. là-dessus, va être plus petit.
C'est un peu plus de niche?
C'est un peu plus de niche, c'est ça. Fait que, il n'y a pas eu assez de jeux qui étaient comme vraiment grand public.
Il y avait Minecraft.
Oui, tu as eu Minecraft, ça, c'est sûr, ça a levé là-dessus. Un peu comme Terraria, des petits jeux de même.
J'ai un collègue de travail qui a fait un stade avec Minecraft. Ça a l'air qu'il s'est fait aider par ses chums. Mais moi, j'ai jamais vu l'utilité à Minecraft. Là, mon gars a commencé à me parler de Minecraft. Fait que ça, tu vois, ça me saute d'en face. Là.
Ouais, mais ça fait partie des jeux que ça, tu comprends ou tu comprends pas. Moi, le premier, aller dans Minecraft.
Moi, c'est là. La musique. Là. Je comprends pas quelqu'un qui est capable de jouer des heures avec le tout.
Puis, t'es chanceuse parce que t'es née dans le bon temps. Là. Mais si je te faisais entendre des sons de console de 1985, là, je me demande comment les parents faisaient pour endurer ça.
Ouais, mais c'était stressant. Oui, c'est ça. Mais t'avais une certaine adrénaline à jouer, un petit stress, mais là, tout. C'est une sieste que tu fais.
J'allais
quasiment sacré.
On salue ton ex.
On le salue.
Elle est quasiment sacré. Elle a arraché le micro. Hey, pété l'écran d'ordinateur.
Tu joues à mute, là.
C'est
ce que je voulais dire.
Tu veux terminer vite avec les deux autres? On a-tu le temps?
Regarde. Ouais, deux minutes.
Un autre, Sega n'a pas été chanceux, Sega Saturn. Puis là, encore une fois, comme tantôt je vous ai dit, c'est pas parce que la Sega Saturn, c'était une mauvaise console, parce qu'il y a eu des super bons jeux là-dessus, super belle technologie, ça s'est quand même vendu à pas loin de 10 millions de consoles. Ça a pas eu, tu sais, ça a sorti en 95, puis ils ont arrêté la production en 98, parce qu'encore une fois, tu vois que ça levait pas assez, les ventes étaient pas assez là. Puis ben là, ça allait se battre encore une fois contre la PlayStation 1. La PlayStation 1, veut pas, quand elle est arrivée, elle a tout ramassé. Elle a fait le ménage partout, puis elle a écrasé toutes les autres. Puis même, vois-tu, Sega, qui était une compagnie établie depuis longtemps, là. Tu sais, elle recule à l'air 16 bits, là. C'était Sega Nintendo, là. Même Turbo, NEC, qui est TurboGrafx-16, ben, tu t'entendais pratiquement pas parler d'elle, là. C'était vraiment le combat. C'était Sega contre Nintendo. Puis non, Sega s'est fait comme éclipsé par PlayStation quand ils sont arrivés avec cette console-là.
Quelqu'un me dit, mon fils a un Vectrex. Comment ça vaut aujourd'hui?
Ça vaut cher.
Ouais.
Oui, ah ouais? S'il est en bon état, ça vaut cher. Encore une fois, site de collectionneur, allez voir ça, ça vaut la peine. J'en ai parlé de la Vectrex, là, cette espèce de boîte carrée un peu qui ressemblait à un Mac classique. Qui fallait que tu changes les couleurs en mettant des acétates de couleurs dans ton écran.
Wow!
Oui, parce que c'était monochrome.
Marc, j'ai encore mon Commodore 64, moi.
Oui.
Ça vaut-tu encore quelque chose?
Je te dirais qu'avec le Commodore 64 Mini qui ont sorti récemment, non.
Non. Turbo Graphic 16, c'est le dernier.
Turbo Graphic 16, qui est ma console d'enfance à moi, qui encore une fois, un coup de pieu dans le cœur, parce que ça me fait de la peine que cette console-là sur le marché nord-américain, parce que Turbo Graphic 16, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la console qui est le dérivé américain de la PC Engine, qui est la version japonaise. Au Japon, ça a super marché tempête, ça a super bien été, mais encore une fois, quand ils sont arrivés pour adapter ça sur le marché américain, NEC, qui était derrière ça, des constructeurs d'ordinateurs japonais, a foiré. Marketing zéro. Les jeux qu'ils décidaient d'apporter ici, on voyait qu'ils ne comprenaient pas la mentalité américaine. Souvent, c'était des jeux que le monde se foutait parce que ça ne fonctionnait pas. Fait qu'encore une fois, malheureusement, c'est une bonne console, mais qui n'aura jamais levé comparativement à la Genesis et à la Super Nintendo.
Ouais, Pascal dit, j'ai encore mon Atari 2600.
Ouais.
Mais ça, ça a perdu un peu de valeur quand les émulateurs sont arrivés. Les jeux chinois où tu avais 600 jeux dans un petit jeu à 75$.
Là. De là, la Commodore Mini.
Ouais.
De ce que tu as dit, Marc.
Toutes les consoles de même, là, toutes les vieilles consoles 16 bits, 8 bits, pis ça, ben, à cette heure avec les Wii, les émulateurs, ça perd de la valeur beaucoup, à part si tu l'as encore en état vraiment mint condition.
Avec le manuel, puis tout.
Oui, puis avec la boîte.
La boîte qui sent le garde-robe de cèdre.
Exactement. Fait que si tu as tout ça, tu peux avoir une certaine valeur. Parce que oui, les collectionneurs, moi, ma Turbo Duo, qui est comme l'évolution qu'il y avait eu de la Turbo Graphics 16, j'ai vendu ça, je me rappelle bien, 650$ en... Je me rappelle pas c'était en quelle année, mais notre pièce à ce moment-là valait 65 sous. Fait que ça valait... Tu sais, j'ai eu 1000$ pour... sur le web.
Wow!
Pareil,
okay.
J'avais la boîte pis tout.
Il y a encore un marché pour ça.
On veut plus de marques dégagnées dans notre vie d'M2 Gaming. On fait comment pour vous suivre?
Ben, www.m2gaming.ca évidemment, qui est notre site web. La chaîne YouTube qui est M2 Gaming Canada. N'oubliez pas le Canada, très important. Puis nos Facebook et nos Twitter où on met en masse de stock à tous les jours, des leaks, des nouvelles, puis toutes sortes de choses.
On se rejoint la semaine prochaine?
Yes!
Merci! Bye.